33. L'étoile lointaine était en orbite polaire autour du monde interdit, à une distance assez grande pour que la période orbitale fût légèrement supérieure à 6 jours. Trévise ne semblait pas pressé de descendre d'orbite. « Puisque la planète est habitée, » expliqua-t-il, « et puisque, d'après Deniador, elle le fut jadis par une civilisation humaine technologiquement évoluée, représentant la première vague de colons, les prétendus spatiaux, ils peuvent continuer d'être technologiquement évolués et ne pas éprouver un grand amour pour ceux de la seconde vague, comme nous, qui les ont remplacés. J'aimerais bien qu'ils se montrent, qu'on en apprenne un peu plus sur eux avant de risquer un atterrissage. « Il se peut qu'ils ignorent notre présence, » dit Pellorat. Nous l'aurions détecté si la situation était inverse. Je dois par conséquent supposer que s'ils existent, ils sont susceptibles de chercher à nous contacter, voire de tenter de venir nous capturer. Mais s'ils viennent à notre rencontre et sont technologiquement évolués, nous pourrions très bien être impuissants devant. Je ne peux pas le croire. Le progrès technique ne s'effectue pas nécessairement d'un bloc. Il est tout à fait concevable qu'il soit très en avance sur nous dans certains domaines. Mais il est clair qu'il ne se consacre pas au voyage interstellaire. C'est nous, pas eux, qui avons colonisé la galaxie. Et dans toute l'histoire de l'Empire, je n'ai pas connaissance qu'ils aient quitté leur monde pour se manifester. S'ils n'ont pas voyagé dans l'espace, comment imaginer qu'ils aient pu effectuer de sérieux progrès en astronautique? Et si ce n'est pas le cas, il est impossible qu'ils aient quoi que ce soit de semblable à un vaisseau gravitique. Nous avons beau être quasiment désarmés, même s'ils débarquaient avec un vaisseau de combat, ils ne seraient pas en mesure de nous capturer. Non, aucun risque que nous soyons impuissants. Leur avance pourrait être en mentalique? Il est possible que le mulet ait été un spatial. Trévise haussa les épaules, manifestement irrité. Le mulet ne peut pas être tout à la fois. Les Gaïens l'ont décrit comme un Gaïen aberrant. On le considère également comme un mutant, né par hasard.
Assurément, reconnut Pellorat. On a même été jusqu'à raconter, spéculation guère prise au sérieux bien sûr, qu'il s'agissait d'une créature artificielle, en d'autres termes un robot, bien que le terme n'ait pas été utilisé.
S'il y a effectivement quelque chose qui semble mentalement dangereux, nous devrons nous reposer sur Joie pour le neutraliser. Elle peut...
Au fait, est-ce qu'elle dort en ce moment?
Elle dormait.
Mais elle se retournait dans sa couchette lorsque je suis sorti pour venir ici.
Elle se retournait, hein?
Eh bien, il faudra qu'elle soit debout vite fait si jamais quelque chose se manifeste. Je compte sur vous pour y veiller, Janoff.
Oui, Golan,
dit Pellorat très calme. Trévise reporta son attention sur l'ordinateur. Une chose me préoccupe. Ce sont les stations d'entrée. D'ordinaire, elles sont le signe manifeste d'une planète habitée par des humains à la technique évoluée. Mais celles-ci...
ont-elles quelque chose d'anormal?
Plusieurs choses. Tout d'abord, elles sont très archaïques. Elles pourraient avoir des milliers d'années. En second lieu, il n'y a pas de rayonnement autre que thermique.
Des thermiques?
Les radiations thermiques émanent des objets plus chauds que leur environnement. C'est une signature familière pour tout objet et qui consiste en une large bande de radiation qui suit un motif immuable, fonction de la température. Or, c'est un tel spectre qui radie les stations d'entrée. S'il existait des appareils d'origine humaine en fonctionnement à bord des stations, on devrait détecter une fuite de rayonnement non thermique, non aléatoire. Puisque seules sont présentes des thermiques, nous pouvons assumer ou bien que les stations sont vides et le sont peut-être depuis des millénaires, ou bien qu'elles sont occupées mais par des gens d'une technique si évoluée que leurs machines ne dégagent aucun rayonnement parasite.
Peut-être, dit Pellorat, la planète jouit-elle d'un haut degré de civilisation? Les stations d'entrée se trouvant vides parce que ce monde est demeuré depuis si longtemps dans un si strict isolement de la part de colons comme nous que ses habitants ne s'inquiètent plus d'une éventuelle approche.
Peut-être. Ou peut-être qu'il s'agit d'un piège quelconque.
Joa entra, et Trévise, la remarquant du coin de l'œil, bougonna.
« Oui, nous sommes là. »«
C'est ce que je vois, » dit Joa.
« Et toujours sur la même orbite, ça, j'ai remarqué. »
Pellerat s'empressa de lui expliquer.
« Golan veut être prudent, ma chérie. Les stations d'entrée semblent désertes et nous ne savons pas trop qu'en penser. »
« Inutile de se tracasser pour ça, » dit Joa, indifférente. « Il n'y a aucun signe détectable de vie intelligente sur la planète autour de laquelle nous orbitons. »
Trévise lui jeta de biais un regard surpris.
« Qu'est-ce que vous racontez ?»«
Vous aviez dit, j'ai dit qu'il y avait une vie animale sur la planète, et c'est bien le cas. » Mais où dans la galaxie avez-vous appris que la vie animale impliquait nécessairement la vie humaine?
Pourquoi ne pas l'avoir dit dès que vous avez détecté une vie animale?
Parce qu'à cette distance, la distinction était impossible. Je pouvais tout juste déceler la trace manifeste d'une activité neurale animale. Mais à cette intensité, pas question de distinguer un papillon d'un être humain.
Et maintenant?
Maintenant, nous sommes bien plus proches et vous avez peut-être cru que j'étais endormi, mais je ne l'étais pas, ou du moins pas tout le temps. J'étais, pour employer une expression, tout oui, afin de détecter un signe quelconque d'activité mentale assez complexe pour traduire une présence intelligente.
Et il n'y en a pas.
Je suppose, dit Joa avec une soudaine prudence, que si je ne détecte rien à cette distance, il ne doit pas y avoir plus de quelques milliers d'êtres humains sur la planète. Si nous nous approchons, je pourrais encore affiner mon jugement.
Bon, voilà qui change bien des choses, dit Trévise avec une certaine confusion.
Je m'en doute, dit Joa, qui semblait manifestement assoupie et par conséquent irritable.
Vous pouvez désormais larguer toutes vos histoires d'analyse de radiation, d'hypothèses, de déductions, ou je ne sais quelles autres activités. Mes sens gaïens font le travail bien plus efficacement et sûrement. Vous voyez peut-être enfin ce que j'entends en disant qu'il vaut mieux être gaïen qu'Isola.
Trévise attendit avant de répondre, avec un effort manifeste pour garder sa contenance. Lorsqu'il reprit la parole, ce fut sur un ton poli, presque officiel.
Je vous suis reconnaissant de l'information.
Malgré tout, vous devez bien comprendre que, pour employer une analogie, la perspective d'une amélioration de mon odorat serait un motif insuffisant pour me décider à abandonner mon humanité pour devenir un limier.